En tout cas, ce matin, je bénis le Seigneur pour la conduite de la louange. Et le thématique de la louange, nous disait tout à l'heure Luc, c'était « L'Éternel règne ». Et on l'a chanté. Et on a chanté « Il est Seigneur ». On a chanté « Le roi dans sa splendeur ». Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a chanté ce matin, puisque vous l'avez chanté, et vous savez ce que vous avez dit vous-même à Dieu, ce que vous avez chanté vous-même à Dieu. J'aimerais vous entraîner dans un premier passage. Peut-être le commenter pour ne pas perdre trop de temps, et on ne perd jamais de temps en lisant la parole de Dieu, mais il y a un passage qui me taraude depuis des mois et des mois, et j'aime ce passage de Ésaïe 6. Le sixième chapitre d'Ésaïe nous parle justement de l'année de la mort d'un roi, le roi Ozias, et Ésaïe voit le Seigneur qui est sur son trône élevé, vous voyez, le Seigneur est sur son trône, et les pans de sa robe descendent dans le temple et remplissent le temple. Et on voit que finalement, ce n'est pas le petit Jésus dont on parle souvent, ce n'est pas l'employé de service, le boy qui est à notre service, le commissionnaire, le serviteur qui est à notre service, mais c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous voulons ce matin l'accueillir au milieu de nous. Il est au milieu de nous, mais il est le roi des rois. Il règne. Et il règne de toute éternité, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Alors des séraphins se tenaient au-dessus, je ne décris pas simplement ce que sont les séraphins, ils avaient des ailes, etc. Mais ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire. » Et nous disons « Amen, Saint, 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 et l'Éternel des armées. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements, la voix retentissait, la maison se remplit de fumée. C'est-à-dire que la maison se remplit de la gloire de Dieu. Et mes amis, lorsque Ésaïe a vu cela, a entendu cela, la première réaction, ça a été de dire « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'appartiens à un peuple tout entier dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. » Il pensait qu'il allait mourir sur place parce que ses yeux avaient vu le roi. Alors, l'un des séraphins vola vers lui, en mettant une pierre ardente dans sa main, il avait pris cette pierre sur l'autel et il a touché les lèvres d'Ésaïe en disant ceci, simplement, ceci a touché ta bouche, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et là, simplement là, Ésaïe entend la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et Ésaïe de répondre, enfin, me voici, envoie-moi. Et nous disons amen à la parole de Dieu. Je crois qu'il y a, et Ésaïe en parle aussi, je crois que c'est au chapitre 58 ou 59, je crois, où il dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, mais ce sont nos péchés, ce sont les choses que nous faisons, que nous disons, ce sont nos comportements qui empêchent Dieu de nous bénir. Et combien nous voulons bénir le Seigneur pour ce passage que nous avons évoqué ensemble. Et je voudrais vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu il y a quand même quelques années maintenant en arrière. J'étais encore en région parisienne. Et en 2013, fin 2013, l'église de Belleville et l'église de Fontenay se sont liées ensemble, se sont mises ensemble pour créer ce que l'on appelle une maison de prière 24 heures sur 24, la maison des parfums. On l'appelait la maison des parfums. Ici, c'est la tente de la rencontre. Là-bas, c'était la maison des parfums. Et je me souviens que nous avons pris la Sainte-Seine ensemble, nous avons établi cela, les deux églises réunies, et les veilles ont commencé. Je faisais partie des veilleurs, et donc mon nom, c'était Encens. Donc c'était mon nom de parfum. Et les gens donc s'inscrivaient aux veilles des différents acteurs qui étaient là, des différents guides. Et je me rappelle les premières fois où je tenais des veilles dans cette maison des parfums à Belleville. J'étais tout seul, pas d'inscription. Mais j'étais inscrit pour 2 heures. Alors je tenais mon engagement. Donc je montais là où il y a le buffet d'orgue, c'était là où qu'on pouvait louer le Seigneur et l'adorer pendant 2 heures. Et je me retrouvais tout seul à louer le Seigneur. Et vous savez ce qui est venu dans mon cœur, la première chose qui est venue dans mon cœur alors que je m'approchais de lui, c'est ce sentiment que je devais me repentir de mes péchés. Il y avait ce sentiment de m'approcher de Dieu, de m'approcher de sa sainteté, et moi je me sentais petit et sale. Et j'ai passé du temps dans la présence de Dieu à confesser mes péchés, à lui demander pardon, à lui demander de me purifier par son sang. Et mes amis, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi de puissant. J'ai senti que le Seigneur relevait ma tête. Il me pardonnait, mais il me faisait entendre que j'étais son fils bien-aimé et que quand je m'approchais de lui, il s'approchait de moi. Et c'était beau, parce que lorsque je passais du temps dans sa présence, et ça a duré plusieurs semaines, tout seul, dans cette maison des parfums, je ne voyais personne venir, mais j'étais là dans la présence de Dieu. Et lorsque je rentrais à la maison en métro, mon cœur chantait tout le long du trajet. J'avais des parfums de louange qui montaient vers lui, parce que j'étais baigné dans la présence de celui qui m'aimait tant, mais moi je l'aimais passionnément. Et j'avais envie de partager ma joie, et je peux vous dire que mon message a changé, mon comportement a changé, mon visage a changé. Pourquoi ? Parce que Christ en dedans, il se voit au dehors. Simplement cela, ce témoignage que le Seigneur, bien sûr après des gens sont venus, et des gens ont été touchés, et ils ont fait cette même expérience. J'ai vu des gens baptisés dans le Saint-Esprit alors qu'ils ne l'étaient pas du tout en entrant. J'ai vu des gens guéris de leur maladie parce que le Seigneur agissait. Simplement, sa présence était là, mais il se manifestait, sa gloire se manifestait. Pourquoi ? Parce qu'on était là non pas pour nous-mêmes, mais on était là pour lui. On était là pour l'honorer. On était là pour le bénir, l'élever, élever son nom et dire « Seigneur, tu es le plus beau des fils de l'homme et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Et le Seigneur mettait des louanges dans nos cœurs. Les gens venaient partager ce qu'ils recevaient. Mais c'était fou, parce qu'on n'était pas en train de les diriger. Moi, je leur disais, je ne vous dirige pas. Simplement, si vous avez reçu quelque chose, partagez-le. Et on voyait des gens qui étaient là, baignés dans la présence de Dieu, et qui apportaient ce que le Seigneur leur communiquait. Simplement, j'aimerais dire aussi qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que s'approcher de Dieu, c'est pas, on ne le fait pas n'importe comment. Moïse, à un moment donné, vous rappelez, dans le chapitre 3 du livre de l'Exode, il voit un buisson, alors qu'il gardait les troupeaux, il voit un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Et il s'est déplacé pour aller voir ce qui se passait. Et à un moment donné, alors qu'il s'approche, il se détourne pour voir cette grande vision, l'Éternel vu qu'il se détournait pour aller voir, et du milieu du buisson, Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et donc, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. Et ça sera le thème de notre message ce matin, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Jacob lui-même a eu un songe à un moment donné, il s'est endormi, il a eu un songe, et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Et voici, des anges montaient et descendaient. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et puis, à un moment donné, Jacob se réveille de son sommeil. Il dit, « Mais certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur. Il eut peur. Et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva, il prit une pierre, il en fit son chevet, et il versa de l'huile au sommet, etc., etc. On va parler de Josué, puisque nous sommes l'église Josué. Josué aussi, le chef de l'armée de l'Éternel, se présente devant lui, et au chapitre 5 et au verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, et Josué fit ainsi. » On pourrait aussi parler de Job. Job qui a eu des entretiens avec trois compagnons qui ne l'ont pas forcément aidé. Mais à la fin, Job, qui est resté intègre dans ce qu'il était pour Dieu et devant Dieu, tout à coup, il est baigné dans quelque chose, il ne s'attendait pas à cela. Dieu lui montre la nature qu'il a créée. Dieu lui montre des animaux. Dieu lui montre les merveilles de sa nature. Et Job de dire à la fin, alors qu'il rencontrait Dieu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Et Job est délivré de sa maladie, de ce qu'il avait atteint au plus profond de son corps. Et puis il a vécu des jours heureux, il a été béni 4 fois plus qu'il ne l'a été au début de sa vie. Et moi je suis enthousiasmé mes amis, parce que Dieu est en train d'accomplir en ces jours. On peut commencer à réaliser ces temps que nous vivons, qui ont été annoncés par les prophètes, et ces temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est une opportunité pour nous de nous approcher de Dieu et d'accomplir ce pourquoi nous sommes appelés. Et mes amis, nous allons le dire bien souvent, nous ne sommes pas quelques-uns à être appelés à avoir une distinction par rapport à d'autres. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous reçu une grâce de la part du Seigneur. À certains, des ministères ont été distribués pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. D'autres vont recevoir des dons, mais tout cela c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais nous sommes tous appelés, mes amis, les uns et les autres, à partager la gloire de Dieu et à vivre cette gloire ensemble. On a des rêves dans notre cœur qui sont tellement au-delà de ce que nous pouvons accomplir, des choses comme Dieu voit les choses. Et j'aimerais vous simplement vous conduire dans ce que Dieu a dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que Dieu veut parler à chacun de nous, mais nous devons être enthousiastes, optimistes et dire ces choses, nous voulons y entrer, mais pour cela, Dieu attend de nous une décision de chacun de nos cœurs. Et voici ce qui nous différencie de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, c'est la présence de Dieu en nous. Alors, quelle est la différence? Je peux vous parler de gens, de croyants qui ont vécu dans la présence d'un autre pendant des années, des couples par exemple, qui sont ensemble depuis des années, qui dorment dans le même lit, qui mangent ensemble à la même table, mais qui ne se connaissent pas. Et c'est important de savoir que Dieu veut établir une relation avec chacun d'entre nous. Alors je vous entraîne dans un premier verset important pour moi, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, si on peut le chercher, je ne sais pas si vous pouvez le faire, Jacques chapitre 4 verset 8, et Jacques fait cette déclaration: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aimerais que vous puissiez le dire. Approchez-vous de Dieu. Allez, on va le redire une autre fois. Allez-y. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Avez-vous entendu ce que vous venez de dire? Avez-vous entendu ce que vous venez de dire? Qui agit et qui fait le premier pas? C'est qui? C'est nous. Il y a quelque chose que nous initions qui va causer celui qui a placé les étoiles dans le ciel et qui est à notre portée à s'approcher de nous. Et en ce qui me concerne, moi ça m'émerveille. Ce que Jacques est en train de dire par l'Esprit de Dieu, vous êtes celui ou celle qui va déterminer le niveau de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui détermine le niveau, c'est vous, c'est moi, c'est vous. J'attends un amen. Je trouve qu'il y a beaucoup de croyants qui ont ce concept, qui pensent que des gens sont nés avec une étoile sur la tête, qui pensent à de grands hommes de Dieu comme Oral Roberts, vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler de Benny Hinn, de Billy Graham, qui est décédé maintenant, de Reinhard Bonnke, qui est dans la gloire aussi, de Catherine Kuhlmann, qui est dans la gloire aussi. Ces gens qui ont bouleversé le monde, un peu comme dans l'Ancien Testament, ces gens qui sont allés voir Jason, qui ont habité chez Jason, et qui ont bouleversé le monde. Mais mes amis, on est appelés nous-mêmes aussi à bouleverser le monde. J'attends aussi encore un amen. Parce que pourquoi est-ce que ces gens ont-ils été si proches de Dieu? Parce qu'ils ont choisi de l'être. Et beaucoup de gens que je connais marchent le plus près possible du Seigneur, sont proches du Seigneur, parce qu'ils ont choisi de l'être. Et Dieu est passionné et intime avec vous, plus que vous ne l'êtes avec lui. Jacques, dans son épître au chapitre 4, dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en chacun d'entre nous. Dieu a soif de cette communion avec nous. Il est passionnément demandeur de cette relation avec nous. Il cherche cette relation. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, vous entendez cette voix qui crie dans le jardin, qui parcourt le jardin. Adam, où es-tu ? Vous savez ce qui a fait que Dieu cherchait Adam ? Je me dis, mais je me suis posé la question souvent, mais Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Comment dit-il, où es-tu Adam ? Il savait très bien où il était. Non. Dieu avait perdu la communion avec celui qu'il avait créé, Adam, parce que Adam s'était séparé de lui par son péché. Il y avait un abîme maintenant qui séparait Adam de Dieu. Et Dieu dit, Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Il cherchait Adam. Il cherchait la communion qui avait été rompue par le péché. Alors j'aimerais vous entraîner aussi dans un autre passage que je chéris vraiment fort. C'est Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, afin que vous buviez. Approchez-vous donc, venez. Et ce passage nous parle, nous dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, verset 6, invoquez-le pendant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car, voici ce que dit Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Et puis après, vous connaissez la suite, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir produit ce pour quoi elle était envoyée, la semence au semeur, le pain celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il y a aussi un autre passage qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 139, où David va dire au verset 17 et 18, que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable, et je m'éveille, et je suis encore avec toi. Vous avez vu, vous êtes allé à la plage, et même vous êtes revenu de la plage avec les pieds pleins de sable. Ça vous est arrivé, cela, hein ? Avec l'eau, ça colle. Hein ? Est-ce que vous pouvez compter les grains de sable, même qui sont sur vos jambes et sur vos pieds ? Un grain de sable, c'est tellement, tellement petit. Un seau, ça représente... Si moi j'avais une pensée pour mater, chaque grain représente une pensée pour mater. Est-ce que vous croyez que, ça fait bientôt 50 ans qu'on est mariés, est-ce que vous croyez que un seau suffirait pour remplir tous les grains de sable qui correspondent à une pensée que j'ai eue pour elle ? Je crois que même un seau serait trop grand encore, tellement le sable est petit. Mais la Bible nous parle des pensées que Dieu a envers nous, comme les grains de sable que contient la planète. Et dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et mes amis, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on n'est pas là pour faire un monologue, pour parler sans arrêt et pour remplir ce temps de nos paroles. Il y a des temps où on doit savoir s'arrêter, ne plus parler et être à l'écoute de sa voix dans notre cœur. Vous savez, les plus grandes directions que j'ai reçues de Dieu dans ma vie n'ont pas été quand j'ai arraché cette direction, mais simplement quand je me suis tenu dans la présence de Dieu, dans mon lieu secret, et que j'ai simplement écouté son cœur. Et c'est là que me sont venues les plus grandes directions pour ma vie, où Dieu me disait, voilà ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, voilà ce que tu vas faire. C'est un dialogue que nous voulons entamer avec Dieu. Et un dialogue, c'est des deux côtés. C'est correct. C'est vrai que si je dis de prier sans cesse, ça veut dire que moi aussi, je suis prêt à communiquer ma foi sans cesse, mais ça veut dire aussi que je suis prêt à écouter ce que Dieu veut dire à mon cœur. Et bien souvent, dans les voyages que j'ai pu faire, ou bien dans les visites d'église, ou dans notre propre église, j'ai pu voir qu'une passion s'est développée dans notre cœur, mais je rencontre tellement de gens qui n'expérimentent pas cette communion avec le Seigneur. Et c'est dommage. Communion intime, et je réalise que plusieurs ne l'expérimentent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est que d'avoir une communion avec Dieu. Alors j'aimerais vous entraîner dans le psaume 89,7, où il est dit ceci, psaume 89,7, 89 verset 7, j'ai dit quoi ? Oh pardon. Je me suis sabordé. Dieu doit être craint. Écoutez bien ceci. ça, c'est comme l'instituteur dans la classe, il attend que le silence arrive et il continue son cours. Psaume 89, 7. Dieu doit être craint dans l'assemblée des justes et être considéré avec révérence par tous ceux qui sont devant lui. Alors vous avez, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Ah, 8. Oui, c'est ça, hein. Bon, arrêtez de me troubler, s'il vous plaît. Donc, dans la deuxième partie de ce verset, il est dit, Dieu doit être considéré, c'est une autre version, avec révérence, et j'ai appuyé là-dessus tout à l'heure, par tous ceux qui sont autour de lui. Vous ne rencontrerez pas ou vous ne trouverez jamais le Seigneur dans une atmosphère où il n'est pas considéré avec le plus grand respect. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans sa présence, nous ne sommes pas là de dire, un jour on est entré dans une église, Mathieu et moi, puis les gens papotaient avant le culte, comme c'est la plupart des cas dans beaucoup d'assemblées, et le pasteur a déployé une sorte de foulard ou de tissu avec écrit dessus, « Silence, nous sommes dans la maison de Dieu ». Alors quand on a vu ça, on s'est dit « Waouh ». Alors j'ai tout de suite le mot « légalisme » est venu dans mon cœur et je me suis dit « Oh là là, on entre dans un chemin étroit et il faut que y a qu'à, etc. » Vous savez, je parlerai plus tard de cela. Il y a le chemin de Dieu, mais il y a un fossé dans qui borde chaque chemin. Il y a le fossé du légalisme et puis il y a le fossé de la permissivité. On fait ce que l'on veut parce que on est sauvé, on est dans la présence de Dieu et c'est un peu notre copain, le Seigneur. Mais il y a le chemin qui est au milieu. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et on verra que le Dieu que nous servons est un Dieu d'équilibre. Alors lorsque je vais dans mon lieu de prière, mes amis, je ne chante pas, je ne prie pas en langue, je ne parle pas en français, je m'arrête un instant dans la grandeur de Dieu, dans la magnificence de mon roi, dans sa présence, et le Seigneur est là, parce que de toute façon, il est là. Vous savez, il y a des gens qui prient, Seigneur, nous accueillons ta présence, Seigneur, viens au milieu. Non, il est déjà là. Là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, il est là. Alors le Saint-Esprit a parlé à mon cœur en me disant, mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il leur a appris à prier? J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de partager avec l'entente une partie de ce message, parce qu'on prie toujours le Notre Père quand on est ensemble. Bon, c'est bien, mais ça devient parfois un rituel. Et on le fait par habitude. Et moi, j'ai dit non, je veux casser le rituel. D'abord, Notre Père qui est aux cieux, parce que nous sommes sur la terre. On est loin. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe 55. Notre Père qui es aux cieux, quelle est la première chose qui apparaît aussitôt cela? Que ton nom soit sanctifié. Avant de parler du règne de Dieu, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas venir vers lui sans sanctifier et honorer avec révérence lorsqu'on est en présence de son nom. Vous savez, mes amis, lorsque je lisais l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, je me suis aperçu que lorsque nous péchions devant Dieu, que ce soit volontairement ou involontairement, nous salissions le nom de Dieu. Et lorsque nous salissons le nom de Dieu, en d'autres termes, nous le profanons. Et ce que Dieu désire, c'est quand on s'approche de lui, que son nom soit lavé, que son nom soit sanctifié, et que nous-mêmes nous soyons purifiés dans nos cœurs par le sang précieux de l'agneau qui a coulé une fois pour toutes pour le rachat de nos péchés. Et dans Lévitique 10.1, il est dit, les fils d'Aaron, alors là, il y a un épisode que l'on doit partager ensemble, Nadab et Abihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un brasier, ils ont mis le feu à ce brasier, et ils ont posé du parfum étranger dessus, et ils ont apporté devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Ils sont venus dans la présence de Dieu, et ce qu'ils étaient autorisés à faire, ils pouvaient le faire, et ils étaient simplement, à l'époque, 6 à pouvoir le faire. Nous pouvons tous nous approcher, parce que le voile a été déchiré. C'est formidable. Quelle grâce, mes amis. On le vit chaque dimanche, mais est-ce qu'on se rend compte que on peut s'approcher de la présence de Dieu librement à cause du voile qui a été déchiré, et à cause du sang qui a été versé? nous avons une libre accès dans la présence même de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Mais Moïse, Aaron et les fils d'Aaron étaient autorisés à entrer dans la présence de Dieu. Mais combien savent aujourd'hui que ceux qui sont nés de nouveau ont accès? Et à ce moment-là, juste 6 personnes. Le mot profane, mes amis, veut dire ceci, c'est traiter ce qui est sacré de manière commune. Traiter ce qui est saint de façon ordinaire. Et une définition, en un mot, c'est le mot irrévérence qui arrive. Ces deux hommes entrent dans la présence de Dieu de manière irrévérencieuse, sans révérence. Et le verset nous dit ceci, le verset suivant nous dit ceci, « Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. » Et Dieu dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et ce que Moïse s'apprête à dire à Aaron, c'est un décret universel, un décret éternel. Ça veut dire que ça s'applique à toutes les créatures. Éternel veut dire que le décret a toujours lieu ici. Quel est ce décret? Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, je serai glorifié en présence de tout le peuple. Dis, tu ne peux pas venir, Dieu dit, tu ne peux pas venir en ma présence, dans ma sainte présence, sans cette sainte crainte. Alors vous allez dire, ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament. Bon, ben on va aller dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, regardez au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, plutôt des Actes du Saint-Esprit, vous voyez 2 personnages qui s'appellent Ananias et Saphira. Ils sont venus dans la présence de Dieu, dans le Nouveau Testament, avec irrévérence. Ils étaient préoccupés parce que les gens penseraient d'eux plutôt que parce que Dieu penserait d'eux. Et ils sont venus, ils ont vendu un champ, ils ont gardé une partie de ce champ pour eux, et ils ont apporté le reste, et ils l'ont placé aux pieds des apôtres. Seulement, manque de peau pour eux, le Saint-Esprit habitait dans le cœur des apôtres. Et lorsque l'apôtre a vu qu'il s'approchait comme ça, « Est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu, Ananias, ton champ ?»« Oui, 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 c'est à ce prix-là. » Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias tomba, raide mort, il fut emporté et on l'enterra. Sa femme n'était pas là. Quelque temps plus tard, Saphira arrive, elle entre dans la maison, elle rencontre l'apôtre qui lui pose la même question. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, 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 c'est bien à ce prix-là. Alors ceux qui sont venus pour prendre ton mari, l'emporter et l'enterrer, eh bien sont là pour venir te prendre aussi. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est tombée raide morte. Et à ce moment-là, le jugement est tombé sur elle. Mes amis, vous allez servir qui vous craignez. Si vous craignez les hommes, vous allez servir les hommes. Mais si vous craignez Dieu, c'est-à-dire, si vous avez de la révérence pour Dieu, vous allez servir Dieu. Et vous pouvez me dire que vous craignez Dieu, mais si vous n'êtes plus préoccupé que par votre réputation, ce que les gens pensent de vous, comment les gens vous considèrent, le respect qu'ils doivent avoir à votre égard, alors vous serez contrôlé par les gens. Mais si vous craignez Dieu, alors mes amis, je crois que vous serez gouverné par des choses éternelles. Ananias et Saphira ont souffert du jugement et la parole de Dieu dit qu'une... Alors quand ils ont vu ça, les autres, une grande crainte s'est emparée de tous et est venue sur tout le peuple. Et mes amis, à partir de ce moment-là, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées au sein du peuple de Dieu. Des signes, des prodiges, des miracles. La parole de Dieu était annoncée avec autorité, avec assurance. Il se faisait des miracles, des prodiges par les mains des apôtres. Tout cela parce que Dieu était élevé, parce que Dieu était honoré et parce que une crainte avait saisi toutes les personnes qui étaient là en voyant qu'on ne joue pas avec cela. Une petite anecdote, je me souviens quand j'étais gamin, mon papa était pasteur d'une petite église au Tréport en Seine-Maritime. Tréport, c'est un lieu de pêche, hein, c'était un Tréport, 3 ports, donc une petite ville balnéaire. Et il a été pionnier dans cette petite ville et il a apporté l'évangile, il a annoncé l'évangile. C'était un évangéliste tout en ayant un cœur de berger. Et il a vu venir à Christ beaucoup de personnes. Il a vu des guérisons spectaculaires, il a vu des miracles, il a pu prier pour la délivrance de personnes. Il ne connaissait pas grand-chose, mais il connaissait la parole de Dieu. Quand je dis il ne connaissait pas grand-chose, il n'avait pas vécu beaucoup de choses à l'époque, il allait par la foi et il était rempli du Saint-Esprit. Et un jour, l'une des jeunes filles qui composait notre église a fréquenté un homme marié. Et cette jeune fille se cachait, bien sûr, et puis tout à coup, on a appris que elle était atteinte d'une leucémie foudroyante. Et lorsque mon père a pu avoir un entretien avec cette fille, elle a pu avouer que finalement sa vie n'était pas nette devant Dieu et devant les hommes. Elle a confessé son péché, elle s'est repentie, et vous savez ce qui s'est passé? Mon papa a imposé les mains à cette fille, elle a été délivrée instantanément de son cancer. La crainte de Dieu l'avait saisie. Mais la crainte de Dieu avait saisi l'auditoire. Les gens qui ont entendu plus tard ce que Dieu avait fait pour cette jeune fille ont remercié Dieu, mais ils se sont dit, on ne peut pas s'approcher n'importe comment de la présence de Dieu. Dieu, on l'a chanté ce matin, Dieu est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est assis sur son trône et il règne. Alléluia! J'aime mon Jésus. Et j'espère que vous pouvez dire ce matin, Seigneur, je t'aime. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure de Job, moi je pensais cette semaine à ce chant qu'on aime chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, allez-y, tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le firmament et les ombres du soir. Allez-y. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, Dieu Tout-Puissant, que tu... Alléluia. Alors mon cœur à chaque instant, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu. Voilà. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tu es grand, Dieu d'amour, peu importe, mais on a chanté la grandeur de Dieu. Amen. Quand on est dans la nature, est-ce qu'on n'explose pas de joie? Lorsque le printemps arrive, quand on voit les fleurs, quand on voit les feuilles, quand on voit le soleil après de longues semaines de pluie, est-ce qu'on n'a pas envie de dire, Seigneur, que tu es grand? Il a créé cette nature. Il a créé cet univers dans lequel nous sommes. Et quelle belle région que l'Alsace, n'est-ce pas? Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est là. Mais on ne se lasse pas de voir les paysages. Mais on ne se lasse pas de dire, oh Dieu, que tu es grand. Alors je voulais simplement vous dire ceci. Quelle est donc cette crainte du Seigneur? Que veut dire ceci? Vous honorez Dieu par-dessus toute autre chose. Et quand vous l'honorez, vous allez avoir cette révérence. Vous allez le respecter. Et lorsque vous l'honorez, c'est-à-dire, vous allez trembler à ses paroles. Ça veut dire quoi, trembler à la parole de Dieu? Ça veut dire, vous allez obéir même lorsque ça fait mal. Ça veut dire que vous allez obéir lorsque vous ne comprenez pas. Vous allez obéir même lorsque vous n'en voyez pas les bénéfices. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui obéissent parce qu'ils veulent voir immédiatement le bénéfice direct de ce qu'ils sont en train de faire. Et j'en reviens à dire, mais le Seigneur n'est pas notre boy. Il n'est pas notre serviteur à table pour dire, apporte-moi le sel, tiens, et apporte-moi ceci. On fait sonner la petite clochette et on lui dit, allez, j'ai besoin de ça. Non. Non, non. Et souvent dans nos prières, ou quand on regarde sur les murs de Facebook, sur le mur de Facebook, on voit des choses, mais à bras cadabrants, les gens qui disent, si vous êtes d'accord avec ce que j'écris, dites un amen. Comme si notre amen allait apporter une bénédiction, et si on ne le fait pas, elle ne vient pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Craignons Dieu, mes amis. Entrons dans sa présence. La crainte de l'Éternel signifie que nous allons obéir immédiatement jusqu'à ce que l'accomplissement soit complet. Et c'est ce que signifie craindre le Seigneur. Ça prend l'amour de Dieu et la crainte de Dieu et ça nous garde sur la route de la vie éternelle. On sait que le chemin de Dieu est un chemin étroit, mais Dieu nous parle de ce chemin. On en parlera la prochaine fois, mais simplement je voulais commencer à ouvrir le chemin là-dessus. Et de dire, mes amis, ne venons pas avec légèreté dans la présence de Dieu. Ne venons pas avec insouciance dans la présence de Dieu. Ne prenons pas le Seigneur comme un copain. comme un ami, comme quelqu'un qui, avec qui on peut lui taper sur l'épaule. Paf ! Je t'aime bien, tu sais. Et non. Vous savez, lorsque Saul de Tarse a rencontré le Seigneur, il est tombé sur le chemin, il est devenu aveugle, il a vu une grande lumière resplendir, et puis on a entendu une voix qui lui dit « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur de lui répondre « Je suis Jésus, que tu persécutes, il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Et nous voyons que finalement, Saul s'est plié. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » ?»« Ah ben, tu vas aller dans telle maison, et j'ai préparé un serviteur, Ananias, qui va prier pour toi, et tu vas recouvrer la vue. » Et c'est ce qu'a fait Saul de Tarse. Il est allé chez cet homme qui a prié pour Saul de Tarse. Des écailles sont tombées de ses yeux. Il a vu clair de nouveau. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à prêcher l'évangile, à tel point que les gens ne le croyaient même pas en disant « Mais c'est lui qui nous a perdu, c'est lui qui avait des lettres contre nous, qui nous enfermait en prison. Et est-ce qu'on doit croire que... » Mais oui, vous pouvez croire parce que le Seigneur est passé dans sa vie. Il est transformé. Il est complètement changé. Il n'est plus le même homme. Alors mes amis, Dieu peut faire tout à merveille. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Approche-toi de lui tous les jours et il s'approchera de toi. Développe une habitude dans ta vie avant d'aller travailler, avant de vaquer à tes occupations. Prends du temps devant Dieu. Mets ton réveil un peu plus tôt. Prends la parole de Dieu. Lis-la, médite-la. Passe du temps dans la présence de Dieu. Écoute son cœur. Laisse-le te parler. Parle-lui, mais laisse-le te parler. Le Seigneur a des choses à te dire. Et j'aime ce que j'ai dit l'autre jour lorsqu'on a prié pour les ministères différents. Que voici ce que nous dit le psaume 32,8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Que Dieu nous bénisse. Approchons-nous de lui. Et il s'approchera de nous. Église Josué, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ensemble. Et la prière ne fait pas partie de mes secondes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans ce lieu. Nous saluons cette présence. Nous t'honorons parce que tu es pour nous le plus beau des fils de l'homme. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ton amour qui a coulé pour nous. Merci pour ton obéissance à la croix du calvaire. Merci pour tout ce que tu as accompli et tu l'as dit toi-même, tout est accompli avant de soupirer une dernière fois sur la terre des vivants. Et merci Seigneur parce que Dieu t'a ressuscité des morts et parce que tu vis en nous. Et parce que tu vis dans nos cœurs, tu as fait ta demeure en chacun de nous, tu vis en nous par ton Saint-Esprit. Alors, ce matin, mon cœur te dit merci. Merci pour l'Église Josué. Merci pour chaque famille qui représente cette famille. Merci Seigneur pour les ministères, pour les dons, pour les appels différents qui vont être entendus dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Merci parce que tu bâtis ton Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mais ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de nous approcher de toi, afin que tu puisses t'approcher de nous, pour que nous puissions entendre ta voix nous parler, ton conseil, remplir nos cœurs, et pour que nous puissions être assurés de ta présence et fortifiés dans le sens que nous n'avons pas peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte de nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de partage. Nous te bénissons pour ta parole. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet et accompli ce pourquoi elle était destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.